la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire.
Karine Zimmerlin, avec Les Essoufflés, nous dresse un portrait d'elle-même en quelque sorte. Elle est preneuse de son et atteinte par une maladie respiratoire qui l'angoisse quand elle travaille. Alors elle décide d'aller rencontrer deux artistes entravés eux aussi dans leur pratique par une maladie du souffle. Et cela nous donne Les Essoufflés.
Surtout, restez calme. Ne pas s'énerver. Parce que si je m'énerve, mes bronches vont encore se rétracter un peu plus et je vais finir étalée par terre à sniffer ma ventoline. Mes bronches, elles se rétrécissent, elles diminuent, le débit se rétracte. Satané bronches, satané tuyaux. Je respire le bonheur. Alors si je ne respire pas, et quoi ? Est-ce que ça m'inspire ? Mais bordel de bordel, je ne respire pas. Comment tu veux que quoi que ce soit m'inspire, m'expire, remplisse mon cœur, mes poumons, mon monde, mes yeux, mes oreilles, me coupe le souffle. Je m'étouffe, je hoquette, je farandole, je gutturale, je nasale, je chorale. J'ai respiré toute ma vie sans y penser, à peu près comme tout le monde. Enfin, je croyais que tout le monde respirait. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à arrêter de respirer. C'est venu doucement, progressivement. Comme un instrument qu'on apprend à maîtriser doucement, j'ai perdu l'usage de mes poumons. Du monde des vivants, j'ai débarqué dans un territoire jusqu'alors inconnu. Seule, sur mon île déserte, là où l'air manque, soudain je réalise. Ce n'est pas une île, ni même un pays, c'est un continent. Le continent des essoufflés. Nous sommes des millions là-bas, si proches et pourtant si loin des autres, ceux qui respirent sans y penser. J'ai quitté la terre ferme, et voici qui j'y ai rencontré. Les Essoufflés. Un documentaire de Karine Zimmerlin.
Et tu vois cette hanche-là, ce truc-là, si c'est trop épais, ça demande un souffle de dingue. Et si c'est trop faible, ça fait un son un petit peu nasillard. Je suis née dans les années 70, donc quand j'ai commencé la clarinette, j'étais vraiment une des seules filles à en faire. C'était vraiment un instrument de garçon. Moi, on se disait en effet que j'aurais jamais assez de souffle pour. Et j'aimais bien le fait de faire un truc qu'on interdisait un peu aux filles et de le faire mieux que les garçons. Ça m'a motivée, mais vraiment pour faire la nique aux garçons, quoi, pour leur montrer que c'était pas la force qui faisait la beauté. Parce que oui, il faut des poumons assez développés pour avoir du souffle, pour jouer de la clarinette, mais il ne faut pas que ça. Je ne savais pas que j'avais une fragilité aux poumons, je ne le savais pas. Mais donc j'ai joué de la clarinette jusqu'à 25 ans sans me poser la moindre question. Mais il faut savoir quand même que pour souffler dans une clarinette, ça demande une pression très très fort dans les poumons. C'est un peu comme quand on essaie de gonfler un ballon de baudruche, mais qui est très serré, qui est très neuf et qui veut pas. Donc en fait, ça comprime beaucoup l'air dans les poumons. Et je jouais donc des heures et des heures en comprimant l'air dans mes poumons. Et un jour, en pleine répétition d'orchestre, j'ai ressenti une douleur comme une déchirure à l'intérieur. En fait, c'était mon poumon gauche qui se recroquevillait. C'était un décollement complet de la plèvre. Mais moi, je ne savais même pas que ça existait et je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais donc voilà, premier pneumothorax.
Écouter ou entendre. Souffler ou respirer. Réfléchir ou penser. Moi, j'y pense tout le temps. Je compte mes souffles comme je compte mes pas, comme je compte les marches, comme je compte les secondes, les battements de mon cœur qui tape de plus en plus vite à mesure que mon souffle se raccourcit. Le manque d'air me fait me taire. Le silence de l'essoufflement, le flou, le flottement, la sensation de griller, du corps qui crépite, qui floute et qui s'envole. Je sors de mon corps, je me libère des contraintes physiques pour partir et vite revenir.
J'ai toujours été malade. La mycoviscidose est une maladie génétique, héréditaire et dégénérative. J'ai toujours eu beaucoup de toux, des soucis respiratoires. J'ai fait de la gym de tout petit et j'ai plutôt vite aussi enchaîné sur du judo, de la natation. En gros, je faisais 34 heures de sport par semaine. Pourquoi ? Surtout parce que je kiffais ça, parce que j'aime bien bouger. Et d'autres en plus, mon kiné me disait que c'était bien de bouger pour pouvoir mieux respirer. Et aussi, plus le corps se forme, plus il y a de la masse autour du torse, mieux c'est pour pouvoir développer ses poumons et pour pouvoir un jour, s'il y aurait potentiellement dans un futur une transplantation, une greffe de poumons, récupérer plus vite.
Moi, je suis clarinettiste, enfin, je m'appelle Morgane Raoux. Je pense que le coup de foudre avec la clarinette, ça a été d'abord la magie de l'instant, parce que c'était un concert, donc il y avait une solennité, il y avait l'ambiance aussi. Et quand le soliste est arrivé, c'était un clarinettiste, il a joué le concerto de Mozart. Je ne sais pas ce qui m'a le plus remué, si c'est cette espèce de communion collective autour de la beauté, parce que c'est magnifique cette œuvre, mais il y a aussi, et ça je pense que je ne l'ai pas inventé, le souffle, c'est-à-dire il soufflait dans sa clarinette et ça m'atteignait moi, assise dans la salle. Et cette émotion-là, je me suis dit que je voulais tout le temps la ressentir.
Mais le mycoviscidose est un handicap invisible. Du coup, parfois c'est dur dans la vie sociale de se faire comprendre et d'accepter soi-même les limites, mais aussi de les imposer là où il y en a besoin. On est enfant, on est beaucoup moins rationnel ou pensif que les adultes. On n'est pas autant préoccupé, on accepte la réalité de l'autre parce que c'est la réalité. Voilà, si je cours trop, ça peut m'essouffler, mais c'est à moi de sentir les limites, que dans certaines circonstances, qu'il faut que je mange assez souvent et que je mange du gras, même si eux, ils n'ont pas le droit aux chips. Que c'est normal que je dois en prendre et que c'est comme ça. Si quelque chose, c'était plus de la jalousie autour des chips que du jugement autour du pas courir.
Bah, par exemple, je peux te jouer le morceau qui m'a bouleversée, enfin, celui qui a fait que j'ai eu envie d'être clarinettiste. C'est le concerto de Mozart. Et alors, j'arrivais pas bien à déterminer si c'était l'épisode, enfin le fait que ce soit un concert ou si c'était la musique tout simplement. Et dès que j'ai commencé à souffler dans une clarinette, quand j'ai commencé mes premiers cours, j'ai senti immédiatement en fait ce bonheur de produire avec son souffle un son et un son qui est beau et qui amène de l'émotion. C'était comme un miracle qui passait par moi.
Silence et moteur demandé. Silence.
Ça tourne. 38 A sur 3, première.
And don't have the silence.
Mon métier, c'est le son. Je l'enregistre, je le monte, je l'entortille comme un fruit qu'on malaxe pour en faire de la confiture. Je fais le lien entre l'actrice et son public. Je prends son souffle, sa voix, son âme, pour la transmettre aux oreilles du monde grâce à un outil magique, la perche. C'est comme une grande canne à pêche avec un micro au bout. Sans elle, il n'y a pas de son. Sans la perche, le son est flou comme l'image est floue sans la personne qui fait le point. Ma première rencontre avec la perche n'est pas très encourageante. On me dit que je n'y arriverai pas. Nous ne sommes pas très nombreuses à l'époque, c'est un métier masculin. Il faut des muscles. Je ne suis pas grande, pas costaude, mais je suis têtue. C'est pas pour moi, tu vas voir. Pour prendre ces sons, je demande... Non, j'exige le silence. Le silence complet, total. Il n'est pas question de gâcher une prise avec du bruit. Le son, ça doit être harmonieux, beau, propre, net. Mais quand c'est moi-même qui me mets à tousser, tout le temps, nuit et jour, soir et matin...
Now for a first pregnancy, you're off to a really great start.
I know it's not a first pregnancy.
Really? Well, for me, there's no doubt. Your cervix looks like that of a woman that's never given birth before.
À vos doutes.
Mais quand il est devenu impossible de s'empêcher de tousser pendant les prises, quand c'est moi-même qui détruis mon propre travail, ce métier magique, puissant, sportif, intense, animal, m'a été arraché par mes poumons, par mes bronches qui ne voulaient plus fonctionner et attraper l'air nécessaire pour transmettre la voix des autres. Sans souffle, pas de muscles. Sans muscles, pas de bras capables de porter cette perche devenue soudain insoulevable. Comme Samson dont on a coupé les cheveux, on m'a coupé les bras en me coupant le souffle.
Je m'appelle Yeser Hoch, je suis un artiste de cirque, j'ai 32 ans et j'ai la mucoviscidose. Donc, de mes 12 ans, ils m'ont averti que j'avais la mucoviscidose et du coup, une semaine plus tard ou deux semaines plus tard, ou un truc comme ça, genre assez vite après le diagnose, j'ai eu une longue conversation avec ma mère. Je me souviens encore d'être assis sur le chauffage et qu'elle était au bureau sur sa chaise. Et que je la questionnais sur, bon, cash, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence. Et je me souviens qu'elle m'expliquait comme quoi il y a une durée de vie en moyenne qui est vachement plus réduite, qui durerait juste jusqu'à mes 25 ans, qu'il est peu probable que j'aurai des enfants, que si j'aurai des enfants, il est probable qu'elles auraient aussi de la mucoviscidose. Et en même temps, ma mère, elle m'a pas mal transmise, pas seulement cette période-là, mais en général dans la vie, un état d'esprit de plutôt carpe diem et de lutte, quoi. On y va. Et du coup, bah, certes, dans les deux ans après avoir entendu toutes ces informations, c'était dur. D'être 12, 13, 14 ans et se questionner sur... qu'est-ce qu'il y a après la mort?
Ground.
Je pense qu'elle prend juste un torse ici. Moi, je sais mes portes.
C'est-à-dire?
Qu'elle met le mât ici. Donc, tu passes.
Ok.
Tu viens chercher ici en ouverture.
Ah oui, d'accord.
Et moi, je fais ça avec une corde. Voilà, c'est ça.
Elle fait une ouverture, en fait. Ouais. C'est pas un bloc. Et voilà.
Donc ça, continue, refais. Mon agrès principal, c'est le machinois. C'est avec cette discipline-là que j'ai fait les sacs. Mais dans le concret de ma carrière d'école, ça m'a influencé dès le début. Sur les auditions, je me souviens très clairement qu'il y a le bureau qui m'a appelé pour parler et qu'ils aient dit « Bon, ben, t'es bien placé dans les auditions, impressionnant là où t'es, blablabla. » Mais on se pose des questions à quel point tu en serais capable de faire cette formation avec ta situation de santé et on aimerait bien que tu ailles voir un médecin de sport parce que sinon on ne peut pas te laisser passer. Ok, mais c'était en gros le vrai moment où j'étais stressé pendant ces auditions, même si c'est des auditions dans une école assez reconnue. Il y a 100 personnes de partout au monde qui viennent à Bruxelles pour faire des auditions, il n'y en a que 20 qui sont prises. Mais c'est que ce moment-là qui me stressait vraiment, d'aller voir un médecin qui ne me connaît pas et qui ne connaît pas la mucoviscidose, parce que c'est un médecin de sport qui va juger si oui ou non je suis capable de faire ce que je fais déjà depuis toujours. Mais voilà, finalement, ce médecin, il a juste appelé mon médecin, ils en ont parlé quand j'étais en face de lui et il a donné feu vert. Parfois, je me demande si j'aurais vraiment assumé le risque de devenir circassien, si j'aurais pas été malade et si j'aurais pas été imposé cette vie carpe diem.
J'ai bu, je mets le motif.
Le mât chinois est un mât de fer de plusieurs mètres de hauteur, recouvert de caoutchouc. C'est un des agrès aériens les plus difficiles puisqu'il est rigide et peut provoquer des brûlures très facilement. C'est un exercice de force. Il fallait une carrure de Superman. Sur son mât chinois à 6 mètres de hauteur, Yesse défie les lois de la gravité. Et quand je parle de gravité, je ne parle pas seulement de celle qui nous cloue au sol, mais aussi de celle de sa maladie, la mucoviscidose, qui était censée le clouer au lit. Quand le public le regarde, tantôt avec joie, tantôt avec peur, il voit un artiste de cirque, des années de travail, des muscles. Mais moi, je vois des poumons. Des poumons usés, rétractés, abîmés, essoufflés. Mais surtout une force mentale, une volonté, une lutte contre le temps. Il va tomber, c'est pas possible de faire ce qu'il fait sans souffle. Et pourtant, il le fait. Et voilà la chute de la mort.
On a encore 25 minutes de mise de public pour voir tout le monde arriver, pour
bien
voir
stressé.
Tout à fait plus de gens.
Ça fait peur, mais quand on a dit que ça fait pas peur, mais que ça fait peur quand même.
Okay. On voit le volume quand on fait le sound check,
ouais.
On voit ça. Je tombe, Rocio m'aide à me mettre debout. Je commence à monter, mais j'y arrive plus. Je tombe, Rocio elle entre avec la tank à oxygène sur scène. À un moment donné, moi, je choisis de mettre le masque à oxygène. J'appuie sur son dos, sur power.
Ouais.
On respire ensemble deux fois. Après la deuxième, tu fais le Q2.
Face à face avec ce costume, est-ce là qu'on va laisser à titre posthume? Si on l'enlevait, si on faisait des voiles, si on s'envolait comme la poussière d'étoiles, faire de sa cage une caisse de résonance, de ses naufrages la pièce de ses romances, de ses plaintes, des contemplations, de ces craintes d'admirables tentations.
C'était super.
C'était vraiment un incroyable spectacle.
Bah ouais, carrément.
Bravo.
Bravo, c'était vraiment très beau.
Merci. Content que ça vous a plu.
Bravo.
Sur scène, ça dépend de quel spectacle et de quelle forme, de quel narratif, à quel point il y a de la place pour un malade dans ce qu'on voit sur scène. Il y a eu des spectacles que j'ai faits où ça ne rentre pas dans le narratif d'être en train de tousser ou où il faut se montrer plus dans une capacité extra. Et du coup, voilà, tu rajoutes un demi-tour, tu te tournes vers l'arrière-scène pour tousser, tu continues ton tour et t'es de nouveau avec un grand sourire en train de faire ce qu'il fallait. Ça dépend aussi de quel moment dans ma vie, à quel point j'allais déjà très mal ou à quel point c'était encore assez légère, les symptômes de mucoviscidose. Et mine de rien, c'est une maladie dégénérative. Et à un moment donné, ça devenait de plus en plus difficile. Et dans le quotidien, autant que dans mon sport, mon art et ma passion et mon profession, ça devenait plus difficile de maintenir l'exigence que j'avais envers moi-même auparavant.
Ben moi, j'ai grandi en France, en Auvergne, dans une ville assez populaire qui s'appelle Clermont-Ferrand. Et j'ai grandi dans un quartier HLM. Dans des grandes tours et ça a été une chance parce que comme il y avait une grosse mixité sociale et pas mal d'enfants qui venaient d'origines différentes, l'éducation nationale a eu envie de faire une expérience et de mettre la musique à l'école tous les jours comme un vecteur d'intégration et de réussite scolaire éventuellement. Et ça a marché. Moi, j'ai plongé dans la musique et j'ai eu envie d'être musicienne professionnelle et j'ai suivi après le parcours des classes horaires aménagées musique. Et puis après, je suis montée à Paris pour rentrer au conservatoire, pour travailler avec les grands orchestres. Et je vivais mon rêve. C'est-à-dire, j'avais un objectif depuis l'âge de 6 ans et je l'avais atteint. À 25 ans, j'étais cachetonneuse. Ça veut dire je faisais partie des musiciens qui n'ont pas une place attitrée dans un orchestre, mais qui sont payés au cachet. Donc, on était employés sur des productions ou des remplacements. Et donc, il faut des gens disponibles, réactifs, en forme, parce qu'il y a aussi beaucoup de tournées. Et quand les pneumothorax sont arrivés, ça a été évident que je ne pourrais plus faire ce métier. Il y en a qui sont venus me voir à l'hôpital. Je voyais vraiment à quel point les pauvres, ils avaient du mal à cacher leur tristesse pour moi.
Je ne chante pas, je ne souffle pas. Je ne joue pas ni de la clarinette, ni de la trompette, ni de la flûte traversière, ni du saxophone, ni du boisson, ni du clairon, ni du hautbois, ni même du pipeau. Ni. Je ne cours pas, je marche. Je ne danse pas, je remue. Je ne saute pas, j'enjambe. Je ne crie pas, j'exprime. Je ne parle pas, je pense. Le yoga, je tousse. L'aérobic, je tousse. La natation, je coule. La lecture, je mime. Le tennis, je le regarde. Le foot, je siffle. Non, je lève les cartons.
Premier pneumothorax, c'était ça. On m'a amené à l'hôpital, on me l'a replacé avec des drains, avec de l'aspiration. On a attendu que ça tienne et puis je suis ressortie. Mais on m'a dit, tu ne pourras plus jouer de clarinette parce que tu as une fragilité trop grande. Donc ça a été très difficile. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que j'ai le poumon droit qui s'est décollé aussi. On m'a opéré ce poumon droit. Et donc je pensais qu'il allait être plus solide. Et puis un an après, de nouveau en France, mon poumon droit s'est redécollé. Et là, j'ai eu une chance, c'est qu'un professeur en pneumologie a accepté de m'opérer les deux poumons en même temps, alors que normalement, il faut faire l'un puis l'autre, parce que si ça se passe mal, on a besoin d'un poumon quand même. Et là, moi, j'ai cru que j'aurais le droit de refaire de la clarinette. Et hélas, non. On m'a dit, non, quoi qu'il arrive, tu peux plus en faire, en tout cas, plus en faire d'une façon professionnelle. Et ça a été, là, très, très difficile à vivre.
À l'époque où ça allait vraiment, vraiment pas très bien, j'avais 34% de capacité pulmonaire et que toute action était difficile, je sortais beaucoup moins, j'étais épuisé tout le temps. J'enseignais encore. Ça m'est arrivé de donner cours avec un cathéter et l'infuse sur un brosse avec laquelle je me baladais pendant que j'enseignais. Mais c'était plus pour encore maintenir un peu une vie professionnelle et un peu taffée que par la passion pure et l'envie sociale d'y être. Quand j'allais rejoindre des amis, j'étais assis sur un vélo, mais je pédalais très peu, ils me poussaient. On a de la chance en Belgique, c'est un pays plutôt plat. C'est pas des masses que je me suis trouvé en face d'une montagne.
Tous les mercredis, je dois monter cette petite pente, cette toute petite pente d'à peine 50 mètres pour amener ma fille à la gym. Tout le monde court, après tout, c'est un centre sportif, c'est plein de gens en forme, en bonne santé. Pour qui respirer est juste un automatisme, même pas une idée. Mais moi, je suis là, devant cette toute petite pente de rien du tout, que je sais que je ne pourrai pas monter en une seule fois. Je sais que je vais devoir m'arrêter pour reprendre mon souffle au moins une fois au milieu. C'est ridicule. Je me sens ridicule. Une petite vieille de 35 ans. Les gens sont pressés, je dérange, la bloquer au milieu, essoufflée comme si j'avais couru un marathon. Mon marathon à moi, c'est ce couloir, cet escalier, cet escalator en panne qui me fait fondre en larmes comme si je devais monter l'Everest. Parce que je sais qu'à l'arrivée, je vais tousser. Tousser comme une vieille fumeuse de gitane. Comme si j'avais la tuberculose. J'ai tellement honte chaque fois que je tousse, mais pour moi, tousser, c'est comme pour eux respirer. Je ne peux pas m'en empêcher.
Il faut prendre une pause quand on monte les escaliers. C'est dur d'aller se balader dans le parc parce qu'on a envie de voir des canards, quoi. Enfin, on est restreint, c'est comme ça, et ça a des conséquences sur la vie sociale, pour autant que sur le corps même, et du coup aussi sur le moral. Pareil, à Paris, en tournée, je me souviens qu'on était avec ce collectif et qu'on se baladait vers un bar, je sais plus où. C'était pas quand ça allait le moins bien dans ma vie, mais ça commençait à décliner. Et on commençait à rigoler sur... parce que bon, faut bien le prendre avec une graine de sel et rigoler un peu autour. On référait à moi à un tortue. Tortue et le lièvre et tous les autres, ils étaient en train de courir dans tous les sens. Ils allaient mettre des stickers sur des poteaux, etc., etc. pour s'adapter à mon rythme global qui tenait le train et ils faisaient un peu le con autour. Heureusement qu'on fait bien ça, faire le con. Mais c'était mine de rien frustrant d'imposer mon rythme autour et de voir que les gens s'adaptaient à moi, et même si on s'amusait, j'aurais préféré m'amuser par choix et pas par nécessité, même si c'est une très chouette souvenir et que c'est fort comment socialement dans un groupe on se fait appuyer autant qu'on est soutenu.
Et donc bien sûr le téléphone ne sonnait plus, mais ne sonnait plus non plus pour m'inviter à venir voir leur concert ou m'inviter à, je sais pas, à participer à un projet autrement. Voilà. Mais j'en veux à personne, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait une page qui était en train de se tourner, mais d'une façon un peu violente. Peut-être que oui, ça leur renvoyait... l'idée qu'on est sur un fil, tous. Moi, ça a été, ce qui a été terrible, c'est que je crois que j'étais dans un déni. Je ne voulais pas entendre, mais je ne voulais pas entendre qu'on me dise que je ne pourrais plus jouer de clarinette. C'était impossible. J'avais construit ma vie dessus. Et en plus, la clarinette m'avait réconfortée dans des moments un peu difficiles. Enfin, vraiment, c'était ma béquille. C'était ma... Je n'ai pas ma raison de vivre, mais en tout cas, c'était ma vie. Voilà, c'était ma vie. Donc, je ne voulais pas entendre.
Voilà la bonne blague du destin. Je t'ai bien eu, ma pauvre fille, hein. Tu voulais me montrer ta force et lever les bras? Terminé. Tu voulais passer de l'autre côté du micro et enregistrer la vie? Terminé. Les autres? Eh ben, les autres te prendront pour une faible, une malade, une fumeuse, une fragile, une ratée, une perdue. Tu as honte de tousser? Bien fait pour toi. Je vais pas te lâcher. Et tes petits poumons? Je vais les détruire, les esquinter, les racornir, les aspirer, les enserrer, les dégommer, les manger, les réduire à l'état de grappe de raisin desséchée. Parce que ta vie sonore, tu vas faire une croix dessus. Ta vie sociale, pareil.
Bon, j'étais prof aussi. J'étais prof au conservatoire. Ça a été un problème aussi pour moi, parce que pendant des mois, je ne pouvais plus souffler. Donc mes élèves, je leur donnais cours de clarinette sans leur montrer. Et je me suis aperçue d'un truc assez rapidement, c'est qu'à la base, mes élèves, ils avaient des très jolis sons. Parce que, sans vouloir me lancer de fleurs, j'avais un très beau son. Et donc, par mimétisme, enfin, ils avaient comme modèle mon son. Et quand ils soufflaient dans leur clarinette, ils essayaient de s'approcher sûrement instinctivement de ça. Et les mois où j'ai donné cours sans souffler... Ben surtout les débutants, ceux qui avaient à se fabriquer leur propre identité sonore, mais je trouvais qu'ils n'avaient pas des jolis sons. Petit à petit, j'ai plus envie non plus de donner cours de clarinette parce que je trouvais que un prof qui peut pas être un exemple, c'est pas honnête, c'est malhonnête quoi. Voilà. Donc la vie m'a amenée sur d'autres chemins et voilà, j'ai vraiment tourné la page de la clarinettiste classique, prof en conservatoire et qui travaille dans les orchestres symphoniques. Ça, c'est...
Saturation 97, battement par minute 105. Saturation 92, battement par minute 135.
Je me branchais sur l'oxygène une heure avant le spectacle. Je faisais un aérosol en plus. Je faisais mon spectacle et je toussais en tournant. Et je ressortais aux loges une fois fini pour être une demi-heure au sol à respirer avant de pouvoir reprendre un peu la vie. Et les jours de spectacle, c'était clair que c'était pas moi qui cuisinais et que fallait prendre soin un peu autour et que c'était ça ma journée. Me préparer et récupérer dans le spectacle. Et à un moment donné, c'était juste trop. Je me rendais compte que j'avais la tête qui tournait sur scène et c'est pas la meilleure chose quand t'es à 6 mètres d'eau. Du coup, on a décidé que j'allais me faire remplacer et que c'était comme ça. Et voilà, une période d'acceptation et boum, c'est Covid, ça tombe bien. Pas besoin d'avoir trop de peine et d'être trop déçu par le fait que je pouvais pas faire la tournée avec eux parce que la tournée n'existait plus.
Qu'est-ce que ça m'a fait quand on m'a dit que j'allais arrêter ? J'y ai pas cru. Et en même temps, j'étais quand même complètement désarmée face à la réalité. C'est-à-dire, quand j'ai réessayé de souffler dans ma clarinette quelques mois après le premier pneumothorax, j'ai bien senti que ça me faisait mal. Enfin, je sentais vraiment... Mais, j'ai jamais accepté. Je me suis même dit, je préfère. C'est con, hein, parce que j'adore la vie. Je préfère vivre moins longtemps, mais continuer à vivre, quoi.
Dans tous les faits, les données que ma mère m'avait racontées du coup de mes 12 ans étaient aussi plutôt tôt. Mais d'un côté, la conscience de la mort, mais d'autre côté aussi la non-projection long terme. Du coup, le carpe diem est très beau et très positif, mais il y a aussi un contre-pièce qui est le fait qu'on ne se projette pas, du coup, on ne planifie pas. Du coup, j'ai toujours fonctionné avec des relations ouvertes ou avec des choses un peu plus construites à court terme. Même si j'ai eu des relations de 4 ans et de 2 ans, mais c'était pas dans une démarche de « on va s'installer ensemble ». C'était pas dans une monogamie, dans une envie de construire vraiment ensemble. J'avais peur de construire ensemble, parce que j'avais peur de faire ça et abandonner, mourir, mais abandonner, et de laisser cette personne en souffrance en conséquence.
Selon les médecins, l'espérance de vie ne dépasse pas les 25 ans. Il y a ceux qui ont aujourd'hui 30 ans. Et théoriquement, ils devraient être morts.
Et après quoi, du coup, dans ma je sais pas combienième pneumonie à l'hôpital avec le Covid, je parlais avec une pote, avec Rocio. Je la disais que j'aurais bien aimé qu'il y ait de la culture ou de la présence humaine autour de moi. Et que je commençais à m'imaginer que ce serait chouette, à partir de mon fenêtre, de voir un spectacle. Et elle me disait, bon, c'est bien chouette de s'imaginer de faire un spectacle en face des hôpitaux, mais là, t'as le Covid, on sait pas ce que c'est. Et on sait pas à quel point, en fait, t'es fait pour survivre, là. Donc, déjà, sors de l'hôpital et on en parle. Et si tu sors de l'hôpital, ben, t'as vu comment ta santé est dernièrement. C'est peut-être un peu surcourageux de penser à un spectacle entier tout seul. Et voilà, petit à petit, en parlant, on s'est dit que ce serait une option de construire un spectacle à deux pour des gens hospitalisés, entre autres, et de ramener la tank à oxygène sur scène. On se projetait à faire peu de spectacles. C'était dans ma tête ou dans nos têtes. C'était le dernier spectacle que j'allais créer dans ma vie. Mais que c'était un message que je tenais à faire. Une mission et un message.
Normalement, moi j'ai pas de problème à raconter ma vie et tout ça, mais là, j'avais vraiment la sensation qu'il fallait pas que je dise que j'étais fragile des poumons, parce qu'à partir du moment où je le disais, les gens, dès que je prenais ma clarinette, me regardaient et je voyais ils avaient peur d'assister à peut-être à ma mort en direct, ou je sais pas. En fait, ça leur faisait peur. Et moi, quand je joue de la clarinette, j'ai plutôt envie d'inspirer autre chose que de la peur, quoi. Ouais.
C'est idiot, mais devenir asthmatique à 33 ans, c'est inattendu. Et de sportive, vivante, dansante, joyeuse, je deviens plus lente, plus molle, plus fatiguée, plus chiante, quoi. On m'appelle pour faire le son d'une toux pour un court-métrage. Je double un malade du cancer du poumon en phase terminale. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. On me dit « mais fais du sport, tu t'entretiens pas assez ». J'aimerais bien, mais je toussais tellement au club de gym, les regards horrifiés sur moi, j'ai bien senti que c'était mieux que je ne revienne pas. Je ne pense plus à rien d'autre qu'à la nuit où je ne vais pas dormir et où la toux me réveillera, où la ventoline ne suffira pas. J'essaye tout et n'importe quoi. J'arrête le sucre, le blé, les fruits, le lait, le chocolat. Je prends des herbes bizarres prescrites par un médecin tout aussi bizarre. Je fais de l'acupuncture, de l'hypnose, une thérapie, du nettoyage de bronches, de la kinésithérapie, ostéothérapie, hypnothérapie, psychothérapie, des primothérapies. J'ai honte. Honte de ne pas pouvoir suivre les autres, de tousser quand je parle, de ne plus pouvoir tenir une conversation, et encore moins tenir une perche ou un micro. Les regards aussi, entre colère, rejet, dégoût, pitié, mais surtout incompréhension. J'ai l'air en forme, je suis mince, musclée, jeune. À l'extérieur, j'ai 35 ans et dedans, j'en ai 80. Je ne pense qu'à ma respiration. J'ai l'angoisse de ma prochaine bronchite, du prochain moment où je devrais me coucher par terre d'épuisement. Mes enfants me voient et même petits commencent à comprendre, à avoir peur. Ils se disent « elle va mourir, maman ?»« Non, non, ça va aller, je reprends juste mon souffle. » Et en même temps, je me demande si mon cœur va tenir. Puis je finis par admettre. Je n'en peux plus.
Alors, le père de mes enfants est donc flûtiste. Très vite, en fait... Moi, j'ai senti une osmose entre son souffle et le mien, à l'époque où je soufflais. Et il a fait un truc incroyable. Lui, d'abord, dans ses yeux et dans son discours, il me voyait toujours clarinettiste. Il avait envie d'y croire encore. Il m'a fait énormément de bien, parce qu'il n'était pas défaitiste. C'est l'homme le plus optimiste du monde. Et on avait un jeu... il soufflait dans ma clarinette, donc dans le bec, et moi je plaçais mes doigts sur les trous, donc son souffle et mes doigts, ça produisait des jolies choses. Et comme il était flûtiste aussi, qu'il jouait tout le temps de la flûte, tout le temps, en fait, des fois il travaillait tellement sa flûte, il jouait tellement, je n'arrivais même plus à savoir si c'était lui qui jouait ou si c'était des choses que j'avais déjà jouées, moi, qui rejouais. Ça m'a fait du bien d'avoir dans la maison quelqu'un qui souffle.
Alors il faut trouver un autre chemin et faire la Nico Destin qui m'a fait une vilaine blague. Le son, c'est vaste. Moi qui aimais tant le défi physique, eh bien je vais m'asseoir et raconter des histoires. Puisque je ne peux plus enregistrer les voix, je vais récupérer celles des autres pour les rendre plus belles, les anoblir, les libérer de leurs imperfections pour les amener à leur apogée. Je deviens scénariste et monteuse de dialogue, un terme un peu technique pour dire que je nettoie tous les sons qu'avant je prenais sur le plateau. Je suis seule dans ma salle, donc ma touche est entre elle et moi. Pas de témoin, pas de honte. Et là, je ressens encore plus puissamment le pouvoir du souffle dans les films. Enlève les respirations et tout à coup, quelque chose cloche. Jamais je n'avais entendu les autres respirer, et pourtant mon inconscient le ressent. Je retrouve les sensations magiques qui m'ont fait adorer le cinéma. Je participe à la fabrication du rêve. Mais le regard extérieur est violent. Personne ne sait que je ne respire plus. On me croit femme au foyer. On se dit que je suis une ratée. Je fais plus de son, plus de tournage. Je m'occupe de mes enfants. Ça me blesse à un point qu'ils ne soupçonnent pas, mais que faire ?
Je replace mon hanche sur ma clarinette. Non, celle-là, elle est moche. Non. Il faut que je remouille mon hanche parce qu'elle a séché. Très justement qui envoie beaucoup d'air, peut-être que je vais prendre 5 minutes pour t'en choisir une note. Mais
alors en fait le miracle c'est que j'ai compris qu'on pouvait jouer de la clarinette autrement que d'une façon classique, c'est-à-dire en musique classique la clarinette elle est faite pour être entendue du fin fond de l'orchestre jusqu'au bout de la salle de concert. Donc il y a vraiment une puissance dans l'instrument. C'est un instrument qui peut jouer d'une façon très douce, mais qui peut être aussi très puissant. Ce qui fait qu'on nous fait débuter l'instrument en mettant un matériel costaud. Et c'est ça qui est épuisant. Alors que quand j'ai découvert la musique yiddish, le klezmer, je me suis aperçue qu'eux, ils jouaient d'une façon très 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 proche de la technique du chant. J'ai compris que, en fait, il suffisait juste de très peu d'air pour émettre un son si on considérait que souffler dans sa clarinette, c'était comme de chanter. Et alors, pour ça, j'ai changé mes hanches, j'en ai mis des très faibles. Et ce qui fait qu'au début, mon son, il était vraiment étrange, il était très faible, très fragile. Il n'y avait pas le côté boisé que j'aime dans la clarinette classique. Mais petit à petit, j'ai changé plein de choses, vraiment en m'inspirant de ce que m'avait dit ce clarinettiste et aussi en le voyant faire. Et j'ai trouvé mon confort. Et aujourd'hui, je joue de la clarinette, alors d'une façon très différente, mais j'en joue. Et la plupart des spectateurs ne sait pas, et même dans le milieu musical, parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans le milieu de la musique classique, les orchestres symphoniques, mais je fais beaucoup de spectacles musicaux, et donc je joue aussi avec des gens qui viennent plus du jazz. Et personne, avant que j'écrive mon livre, personne ne savait que je m'étais adaptée à ce point-là, quoi. Voilà.
Alors, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Ouais, c'est marrant, je vais trouver, j'en ai beaucoup.
Thank you.
Alors, les étapes, en fait, petit à petit, j'ai fini par me résoudre au fait que c'est évident, c'est clair que la clarinette, j'étais condamnée. Je ne pouvais pas continuer à la faire d'une façon classique. Et donc, les étapes sont venues petit à petit. Déjà, avec le père de mes enfants, où il m'a fait comprendre que je pouvais en faire... qu'il fallait que je croie au fait que je pouvais en faire... même si j'en faisais différemment, même si c'était un petit son, que ça restait de la clarinette. Et puis, j'ai eu Capucine, mon premier enfant. Et là, mais j'ai eu envie de lui chanter des chansons, d'en écrire. Et en fait, j'ai écrit des chansons pour mon bébé. Et les choses se sont emballées. J'ai remporté des concours de chansons. Une maison de disques a produit mes disques. J'ai fait des spectacles de chansons pour enfants. Et je me suis dit, mais incroyable, quoi! Incroyable, une passion est arrivée pour remplacer celle de la clarinette. Et donc, les étapes, elles se sont imposées par elles-mêmes, mais aussi parce que je me suis autorisée. Le dénominateur commun, c'est quand même la passion. J'ai besoin d'être passionnée par ce que je fais. Alors,
quand, avec mon médecin, on commençait à parler de grève pulmonaire un petit peu, là, si ta capacité ne remonte pas avec cet antibio-là, on se rapproche des autres nécessités. Donc, espérons. L'antibio, elle a pris. Et peu après, il y a eu un nouvel médicament qui est entré dans le marché, qui est assez impressionnant. Outre que m'avoir redoublé ma capacité pulmonaire jusqu'au point où maintenant j'ai une capacité pulmonaire qui date de mes 17 ans, que je ne l'ai pas eue. Du coup, je revis, j'ai une deuxième vie, et j'ai une deuxième vie avec une autre projection. Parce que si la science évolue de cette façon-là, chose que j'ai toujours essayé de l'imaginer pour garder un optimisme, mais j'en étais jamais convaincu que cela se passerait dans ma vie. Du coup, maintenant, ce médicament, en gros, elle a déjà augmenté cette attente de vie moyenne jusque, si je ne me trompe pas, 50 ans maintenant. Chose qui suffit dans l'idée, mais sûrement ça deviendra encore plus. Et du coup, il va falloir se projeter différemment aussi. Elle aspire à que j'aille moins dégraissé en capacité pulmonaire, voire presque pas. Et encore, ils sont en train de travailler sur une prochaine étape où on pourrait carrément guérir la mucoviscidose. Life is so much easier! C'est agréable d'avoir cette énergie et d'avoir cette liberté de penser à un futur. Et c'est aussi un peu overwhelming.
Ouais. Mais aujourd'hui, donc, je l'ai dit, et aujourd'hui, quand, par exemple, je prends ma clarinette sur scène, que je joue et que je deviens toute rouge, parce que je deviens quand même rouge quand je joue, ben, je ne cherche plus à le cacher. Je me dis, bon, ben, ils savent pourquoi je suis rouge. Je viens de leur expliquer pendant une heure dans ma pièce à quel point il faut de la pression dans la clarinette. Donc, c'est comme si ça m'avait libérée. En fait, voilà, j'ai fait mon coming out de mes pneumothorax. Aujourd'hui, tout le monde le sait, et même dans le milieu des clarinettistes, ils le savent tous, alors qu'ils ne le savaient pas tous. Et quand j'ai fait la première de ma pièce à Paris, les premières représentations, il y avait dans la salle les grands solistes des orchestres comme l'Orchestre de Paris, l'Opéra de Paris, qui étaient là. Et je trouvais ça magnifique, en fait, que ma première vie rejoigne ma deuxième, quoi. Puis ils étaient très touchés, et voilà, j'ai une autre vie que celle que j'avais décidé d'avoir, mais il y a encore des ponts entre la première et la deuxième, quoi.
Mais j'ai quand même passé 32 ans à me projeter dans ma vie de la façon que je l'ai faite, par défaut. Et changer ces habitudes-là, c'est loin de là d'être installé. Je suis encore en train de m'adapter à une nouvelle... à me réaliser qu'il faut changer. Pour autant dire, je n'ai pas encore tout changé. Je me permets des réflexions que je ne me suis jamais permises. Niveau futur, vie amoureuse, que je peux aspirer à avoir des réflexions par rapport aux enfants qui sont sûrement différents. En tout cas, les pistes de réflexion peuvent exister là où avant c'était juste coupé net. Non, cela n'existe pas. Je dirais que j'aspire à me questionner, que je me questionne, mais que je suis content de ne pas encore m'être fermé sur d'autres conclusions. J'ai du temps pour faire des conclusions maintenant. Petit à petit, reformer ses habitudes de pensée. À long terme, enfin, c'est-à-dire plus loin que ce qui se passe dans un jour, j'ai l'impression maintenant que j'ai du temps. Mais je reste gourmand de le remplir sur le maintenant. Je pense qu'il y a un côté de cette carpe diem qui est tellement entraînée qu'aussi quelque part j'apprécie. J'ai faim de le faire maintenant, tu vois. Tout à quoi je pense, faut que ça avance. Parfois c'est fatigant quand même, mais je vais bien. Mais voilà, le temps viendra.
Ça a été un obstacle. Très souvent, je me dis, mais quelle serait ma vie si j'avais pas eu ces problèmes-là? Ce serait pas la même chose, c'est sûr. Donc c'est sûr que ça a été un obstacle. Et quand je vais au concert, quand je suis côté spectateur, et qu'il y a un solo de clarinette qui sort de l'orchestre, en fait, j'ai en même temps du bonheur à l'écouter, et en même temps, mais je suis submergée par une vague... j'ai une tristesse ou une mélancolie. Il y a quelque chose qui partira jamais. C'est-à-dire, moi, j'étais née pour faire ça, quoi, pour faire le solo dans l'orchestre. Enfin, pas née pour ça, mais en tout cas, c'était ma vocation, quoi. Donc, oui, ma vie aurait été autre chose. Ouais. Mais ça m'a apporté aussi d'avoir une fragilité physique et puis d'avoir frôlé, j'ai envie de dire, la mort. En tout cas, vu que mes deux poumons se sont décollés, au siècle dernier, je serais plus là, quoi. Parce qu'on peut vivre avec un poumon, mais pas avec zéro. Donc peut-être aussi, je crois que je pense que souvent les gens disent ça quand ils ont eu des gros coups durs, ça apprend à relativiser les choses, quoi. Et j'ai beaucoup de détachement sur plein de choses qui normalement crispent les gens, notamment tout ce qui est matériel, tout ce qui est... Je vis vraiment les instants... je profite de l'instant présent. Je suis plus cigale que fourmi. Voilà. J'aime les cigales et je crois que je suis vraiment une cigale, quoi.
Voilà une petite surprise, une petite blague de l'univers qui me dit « Bon, reprends la vie. Elle durera encore. »
Le son, ouais, hein, ouais. C'est incroyablement juste.
C'est la double casquette.
Ah, oui. Pour mettre ça sur mon CV.
Double asthmatique.
Double casquette asthme.
Puis un jour, le destin revient me voir. Et moi qui avais peur des piqûres, j'en viens à les adorer. Un nouveau traitement voit le jour et sort des milliers d'autres avec moi du continent des essoufflés. Enfin, je reviens sur la terre ferme. Du jour au lendemain, mon souffle revient. Ma toux disparaît. Je peux à nouveau courir, marcher, monter les escaliers et même parler. J'étais devenue muette sans m'en rendre compte, tout doucement. Sans souffle, pas de son. Je vivais sous vide comme un vieux morceau de jambon. Et soudain, tout est oublié.
C'est fini.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont fait partie de cette aventure sonore. Jesse Heun, Rocio Garotte, Sanae de Ruel de la compagnie à 2 mètres, Morgane Raoux, Martin Provost, Mathieu Cox, Ingrid Rallet, Jacques Bouvier, Ronis Carcet, le professeur Froidure, Madame Kaïdalina Mambour, mon producteur Bernard Belfroy et les productions du Souffle, avec le soutien du Fonds d'aide à la création sonore et radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver et Pascal Tison.
Par Oui Dire, chaque dimanche de 20h à 22h sur la première et quand vous voulez sur Ovio.